Il est 19h. Vous écoutez France Inter. Le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Pas de primaire à droite. Il y aura donc un congrès et un vote des adhérents pour choisir le candidat du parti Les Républicains à la présidentielle. Lors du scrutin aujourd'hui, les adhérents Les Républicains ont voté à 58% pour un congrès. Anne Souhaitement dans un instant. L'incertitude en Allemagne avant les élections législatives de demain. Les deux principaux candidats sont dans un mouchoir de poche. Armin Laschet, le chrétien démocrate, et Olaf Scholz, le social-démocrate, ont tenté aujourd'hui de convaincre les indécis. Dans ce journal également, la mort du caporal-chef Maxime Blasco, tué au combat hier au Mali. Le prix de l'électricité en question. Bruno Le Maire veut réformer le marché unique de l'électricité. Et nous évoquerons les assises internationales du journalisme avec un sondage via Voice pour Radio France qui révèle que 6 Français sur 10 jugent trop importante la place accordée à la crise sanitaire dans les médias. La météo pour demain, 4 départements du Sud-Est en vigilance orange pour orages et inondations. Le Gard, l'Hérault, la Drôme et l'Ardèche, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
La politique en France ce week-end avec ce choix à droite, primaire ouverte ou congrès fermé, ce sera un congrès. Le champion de la droite sera désigné d'ici le 4 décembre en congrès réservé aux adhérents. Les adhérents du Parti Les Républicains ont donc choisi la méthode de départage des candidats. En direct du siège des LR à Paris, on retrouve Anne Souhaitement. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Eh bien ce soir, la droite qui a plusieurs candidats déclarés, c'est maintenant comment elle va le choisir.
Oui, et vous l'avez dit, ce seront les militants et rien qu'eux qui choisiront leur candidat à la présidentielle. La primaire définitivement enterrée, le patron du parti, Christian Jacob, vient de l'annoncer.
La version 1 pour un processus ouvert aux adhérents et sympathisants qui a recueilli 40,4%. La version 2 pour le congrès soutien donc réservé aux adhérents, donc 58%. Et 1,6% de vote blanc.
Un choix net des militants qui ont donc choisi à 58% de départager eux-mêmes les nombreux candidats à l'investiture de la droite pour la présidentielle. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin, Éric Ciotti ou Xavier Bertrand. Car c'est la nouveauté de ces derniers jours. Après des mois à faire campagne en solo, Xavier Bertrand a fait un geste laissant entendre qu'il pourrait participer à un congrès dans son camp. On analyse donc le choix des militants ce soir comme une petite victoire. Des militants qui ne rêvent que d'une chose, n'avoir qu'un seul candidat de droite à la fin du processus. En revanche, Frédéric, deux grands perdants ce soir, Valérie Pécresse et Michel Barnier, qui faisaient ouvertement campagne pour une primaire et qui sortent désavoués du vote de ce week-end.
Anne Souhaitement, merci avec Laurent Macchetti. En Allemagne, on vote demain pour des législatives. L'Allemagne s'apprête à tourner la page Merkel. Dernier meeting aujourd'hui. Les deux principaux candidats sont dans un mouchoir de poche et à quelques heures du scrutin, Angela Merkel, dans son dernier meeting en tant que chancelière, a appelé à voté pour son dauphin Armin Laschet face au social-démocrate Olaf Scholz. En direct de Berlin, on retrouve Ludovic Piétenu. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Dernier meeting, dernier discours et l'incertitude demeure avant le vote.
Oui, ben il faut convaincre, hein, c'est ça, hein, les électeurs jusqu'au dernier, parmi lesquels encore un bon tiers d'indécis. On était au chiffre record de 40% il y a 15 jours, ça n'a donc pas beaucoup baissé. Les candidats ont du mal à convaincre, ils ne sont pas très séduisants dans cette course. Olaf Scholz, actuel vice-chancelier, ministre des Finances, a depuis un mois pris la tête, il semble plus rassurant. Jusqu'à cet après-midi, son dernier rendez-vous dans sa ville à Potsdam, près de Berlin. Il n'a pas commis d'erreur, mais attention, cela fait déjà plusieurs jours qu'il plafonne, à l'inverse du candidat conservateur Armin Laschet, qui ces deux dernières semaines a vraiment cherché à donner un coup de fouet à sa campagne, et ça semble fonctionner. L'écart s'est réduit parce qu'il dispose d'une réserve de voix supérieure au candidat du SPD. Il faut juste qu'il parvienne à ramener les électeurs à la maison, comme on dit, ceux qui, n'ayant plus Merkel, sont tentés de s'éparpiller, d'essayer autre chose, un peu chez les Verts, peut-être un peu chez les libéraux, un peu à l'extrême droite, d'où l'opération menée avec la chancelière. 3 meetings conjoints en 5 jours. Armin Laschet ne cherche plus à marquer sa différence avec Angela Merkel. Il est l'héritier et tout autre choix serait aventureux et risqué pour le pays. Le message est simple. Il a été encore martelé cet après-midi à Aix-la-Chapelle, dans sa ville aussi. C'était le même choix qu'Olaf Scholz. Ils ont choisi de finir cette campagne dans leur ville. Voilà, c'est un message simple, mais il peut fonctionner, Frédéric, chez des Allemands qui ont le souci de la stabilité.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin, merci. En bref, l'aéroport de l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, est à l'arrêt aujourd'hui en raison de l'accumulation de cendres dégagées par le volcan Cumbre Vieja qui est en éruption depuis une semaine. La mort du caporal-chef Maxime Blasco, tué au combat hier au Mali dans une opération anti-djihadiste. Sa mort porte à 52 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013. Ce militaire au parcours admirable, indique l'état-major, avait été décoré à de multiples reprises en 2019. Maxime Blasco avait sauvé la vie à deux de ses camarades après le crash de leur hélicoptère Gazelle. Cyril Ardo.
Dans la nuit du 14 juin 2019, Maxime Blasco embarque dans la Gazelle avec deux pilotes. En plein cœur du Mali, l'appareil part en relever un autre, le Tigre. Mais à peine arrivé, l'hélicoptère essuie des tirs ennemis. Maxime Blasco raconte ce moment à la grand reporter Dorothée Oliéric.
Je rentre bien les jambes dedans et je m'accroche en me disant de toute manière ça va être l'impact assuré, donc ça se finit aujourd'hui.
Les trois hommes sont blessés dans le crash, mais Maxime Blasco un peu moins.
La douleur avait envahi mon corps. Je me sentais pas prêt à bouger, mais rapidement en voyant les flammes, j'ai compris que de toute manière, si je restais là, c'était fini.
Il porte alors ses deux frères d'armes vers le Tigre qui s'est posé au sol. La scène dure à peine 6 minutes. Les trois hommes s'agrippent à la carlingue de l'hélicoptère pendant qu'il redécolle. L'un est sanglé, les deux autres se tiennent à la force des bras. Maxime Blasco a accompli un geste de bravoure et pourtant il ne se voyait pas comme un héros.
Je m'étais toujours juré que le jour où il m'arrivait un accident en mission, j'arrêterais mon travail. Et finalement, je vois qu'en fait, ce métier, c'est une passion. Cette sensation aussi de servir à quelque chose, finalement.
C'est lors de sa cinquième mission au Mali que Maxime Blasco, 34 ans, a été tué. Il était paxé et père d'un enfant.
Cyril Ardo, et alors que la mort du caporal Blasco intervient au moment où la France est en train de se désengager au Sahel, on apprend ce soir que les autorités maliennes ont approché des sociétés privées russes pour renforcer la sécurité du Mali. Le prix de l'énergie et de l'électricité est de plus en plus cher. On ne peut plus continuer comme cela, explique Bruno Le Maire face à la flambée des cours. Le ministre de l'économie veut réformer le marché unique de l'électricité avec une révision de fond en comble du système de calcul qu'il juge obsolète. Bruno Le Maire veut lancer une concertation avec ses homologues européens dès lundi prochain. Pierre Vénazé.
L'idée de Bruno Le Maire place la barre très haut, réformer ses règles, voire uniquement les suspendre, c'est s'attaquer à un mastodonte juridique européen. Le marché intérieur de l'énergie a commencé à être mis en place dès les années 50, avec un énorme coup d'accélérateur il y a 20 ans. La France devra faire un travail considérable auprès de ses partenaires européens pour leur faire accepter de revenir sur ces négociations très ardues. Sur le fond, on attend ici les arguments français pour convaincre les pays dépendants du gaz, comme la Pologne, de la nécessité d'une réforme qui profitera uniquement à ceux qui ont le nucléaire et l'hydroélectricité. Comme la France. La Commission européenne réagit en soulignant qu'elle travaille à une boîte à outils pour soutenir les consommateurs et les PME, mais une bonne partie de ces outils consiste à autoriser des aides nationales en préparation ou déjà en vigueur. Elle évoque aussi le Fonds social européen pour le climat, 70 milliards pour soutenir les investissements de transition énergétique, mais ceci est pour le long terme. Certains pays veulent mettre les prix de l'énergie à l'ordre du jour du sommet européen dans un mois. Reste à voir si la France pourra faire avancer ses idées d'ici là. Pierre Benazet, France Inter. À Bruxelles.
Une question loin d'être réglée et qui provoque beaucoup d'interrogations après l'évacuation hier des toxicomanes du quartier des Jardins d'Éole dans le 18e arrondissement de Paris. Les consommateurs de crack ont été déplacés près de Pantin en Seine-Saint-Denis et un mur a été construit à la demande de la préfecture de police de Paris sous le périphérique dans un tunnel qui sépare Paris de Pantin. La préfecture indique que ce mur doit protéger les habitants de Pantin et éviter toute occupation du tunnel dans ce quartier de la Porte de la Villette. Les habitants peu convaincus par la construction du mur craignent une nouvelle colline du crack près de chez eux. Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, n'accepte pas la méthode choisie et encore moins la construction du mur. Stéphane Troussel avec Faustine Calmel.
Ce mur, c'est le symbole, en plus d'être honteux, c'est le symbole finalement de l'impuissance, de l'incapacité des autorités sanitaires, des autorités chargées de la sécurité, quant au règlement durable et pérenne de cette situation. Si qui que ce soit pense que c'est de cette manière que la question pourra se régler, bah, ça sera de fait sans fin. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, semble oublier que c'est de la responsabilité de l'État dans notre pays que de prendre en charge les personnes qui sont en situation d'errance et de grande détresse. L'hébergement d'urgence, c'est de la compétence de l'État. La santé, la prise en charge médicale à travers les agences régionales de santé, c'est de la responsabilité de l'État. Moi, j'attends maintenant des réponses de la part du ministre de l'Intérieur à l'ensemble des questions que nous posons.
Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis. L'événement musical aujourd'hui, c'est le Global Citizen Live, le giga concert humanitaire pour promouvoir un plan de relance de la planète et éradiquer la pauvreté. Pendant 24 heures, des concerts géants sur 6 continents vont se succéder pour ne plus en faire qu'un seul à l'échelle planétaire. Un gigantesque événement caritatif mondial et gratuit avec une brochette de stars internationales. 8 concerts vont donc se tenir de Paris à New York en passant par Londres et Sydney. Et le coup d'envoi du Global Citizen Live a été donné à Paris, au Champ de Mars, où on retrouve Luc Chemla. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
Le show a démarré et Elton John vient tout juste de quitter la scène.
C'est ça, on vient de vivre un des premiers grands moments de la soirée, il y en aura d'autres, hein, avec les Black Eyed Peas, avec Ed Sheeran, mais oui, Elton John très attendu, dès que son nom était cité, la foule était en délire. Elton John qui est arrivé avec son costume vert pomme, une prestation de 25 minutes, une foule, voilà, jeune, à peu près entre 15 et 30 ans pour la plupart, et tous me l'ont dit, on est venu s'éclater, s'amuser, se coller les uns aux autres, transpirer, danser, faire la fête, vivre, et on a marre du Covid, ils m'ont tous dit, on est venu pour s'éclater, mais quand même, hein, ce concert a un but, hein, aussi pour lutter et pour défendre la planète. Deux messages sont répétés en gros sur les écrans géants. Défendre la planète et vaincre la pauvreté. Des clips ont été diffusés sur les conséquences du réchauffement climatique en Afrique, hein, juste avant le concert. Denis Brognard, l'un des animateurs phares de TF1, est sur la scène et voilà, il fait des messages pour rappeler l'importance du vaccin, la situation dans le monde. Voilà, le moment fort de cette soirée est passé. Il y en aura d'autres encore. Et aussi des prestations d'à peu près 10-15 minutes par artiste. Et ensuite, on file à Londres avec un artiste, puis on revient à Paris, puis on file à New York, puis on revient à Paris. Voilà à peu près cette soirée qui commence seulement au Champ de Mars.
Luc Chemla, merci. Les Assises internationales du journalisme, ce rendez-vous annuel de débat autour des professionnels de l'information, se tiendra à Tours la semaine prochaine, de mercredi à vendredi. Et à cette occasion, Radio France et l'Institut Via Voice, associés à France Télévisions, le Journal du Dimanche et France Média Monde, publient leur baromètre sur l'utilité du journalisme et sur la question de la crise sanitaire. Eh bien, les Français estiment, selon ce baromètre, que les médias en ont trop fait. Stewart Shaw est consultant expert en stratégie d'opinion chez Via Voice. Il répond à Alexandra Akoun.
60% des Français estiment que le traitement médiatique a été trop important autour de cette crise-là. La deuxième critique, je dirais, elle concerne la nature même du traitement médiatique, en ce sens qu'elle est plutôt tournée, en tout cas selon les Français, vers un aspect assez anxiogène, voire excessive. Alors vous allez me dire, la nature de la crise rend inévitable l'aspect anxiogène du traitement, mais ce qui est intéressant, c'est l'effet catastrophe et l'effet catastrophiste que les Français ont perçu dans le traitement de l'information, comme si finalement ce qu'ils percevaient dans l'information n'était pas forcément en phase avec le ressenti qu'ils avaient dans leur propre expérience de vie de tous les jours. Et puis enfin, le troisième enjeu, c'est la place aussi de l'expertise, puisque les Français ne dénoncent pas la place des experts finalement dans le débat d'information et médiatique, mais ils semblent en tout cas demander une nouvelle façon de présenter cette parole d'expert. Pour eux, cette expertise-là n'a pas été très bénéfique, en tout cas pendant la crise sanitaire.
Et à l'inverse, 53% des Français estiment que les journalistes et les médias n'accordent pas assez de place aux questions posées par le changement climatique et l'environnement. Du football avec la 8e journée de Ligue 1, avant la rencontre ce soir, Paris Saint-Germain-Montpellier, direction le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, où on retrouve Rodolphe Montagnier. Et Saint-Etienne, sous pression, recevait Nice et les Verts ont perdu 3-0.
L'AS Saint-Etienne pointe à la dernière place du classement de Ligue 1, battu 3-0 par Nice sur deux erreurs défensives grossières. Les hommes de Claude Puel ont enregistré une cinquième défaite de rang. Menés au score après seulement un quart d'heure de jeu sur un coup franc d'Amine Gouiri, détourné dans son but par le capitaine stéphanois Madi Camara. Les Verts avaient réussi à rééquilibrer les débats, mais une relance manquée de leur gardien de but, Stéphane Bajic, a plombé leur début de seconde période, sanctionné par un deuxième but azuréen. En quête d'un premier succès cette saison, l'AS Saint-Etienne est au plus mal, à la veille du derby face à l'Olympique Lyonnais. Les Forésiens ne pouvaient pas plus mal préparer le rendez-vous attendu par tous leurs supporters. Des supporters qui se sont même moqués de leur protégé dans les dernières minutes de jeu. La semaine s'annonce très délicate dans le Forêt. À Saint-Etienne, Rodolphe Montagnier, France Inter.
Et voilà, Saint-Etienne 0, Nice 3. Le temps pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Jean-Michel Golinski.
Des orages souvent forts ce soir et la nuit prochaine, dans un premier temps dans le quadrilatère sud de Garonne, Massif Central, Val-de-Saône, Languedoc, puis dans la nuit de l'est du Rhône au Jura, avec de fortes quantités de précipitations à prévoir en l'espace de quelques heures, notamment sur le Gard, l'Hérault, la Drôme et l'Ardèche, placées en vigilance orange. Demain matin, l'activité orageuse principale va rester forte à l'est du Rhône avant de s'estomper vers la mi-journée. Ailleurs, la matinée sera calme avec toujours un large soleil l'après-midi de Champagne-Ardenne en descendant vers le Roussillon et dans le quart sud-ouest. De part et d'autre, le ciel plus variable pourra lâcher des ondées et donner beaucoup plus rarement un coup de tonnerre. Dans des températures en légère baisse par rapport à hier, il fera 22 à Rennes et Strasbourg, 23 à Lille, à Nevers et Nantes, 24 à Paris, Agen et Lyon, 26 à Montpellier et 28 à Ajaccio.